g.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rencontre, 30 minutes de discussion, de partage, d'échange sur Radio G 101.5 FM, radio-g.fr et en DAB+. Aujourd'hui, 13e épisode de Rencontre avec Antoine Galin, intermittent du spectacle avec la compagnie Ramdam et la compagnie Lionel Suprême. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas.
Comment ça va?
Eh ben ça va bien.
Merci d'avoir accepté de venir sur Rencontre sur Radio G aujourd'hui.
Mais pas de soucis, ça me fait très plaisir d'être là.
Alors pour commencer cette rencontre, pour démarrer cette rencontre Antoine, je laisse nous présenter où nous sommes.
Alors, où nous sommes aujourd'hui, on est au local du CIM, le collectif Intérieur Moquette. On se trouve au Pont de C. Donc, le collectif Intérieur Moquette, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'artistes. Voilà, on est 90 bientôt. Entre théâtre de rue, musiciens, plasticiens, danseurs. Et voilà, collectivement, on partage un grand local qui nous sert de réserve, de stockage, mais aussi de répétition, puisqu'on a deux studios de répétition et aussi de l'administratif, parce que dans les personnes qu'il y a, on a aussi des intermittents du côté, de l'administratif, donc des chargés de diffusion, des chargés de production.
Et alors, c'est ici que la magie se crée de vos spectacles? C'est ici que vous créez les spectacles?
Alors, pas forcément, mais en tout cas, c'est un endroit très important, rien que pour les échanges, en fait, parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de monde ici, comme je te l'ai dit, on est 90. Après, voilà, chacun fait partie de sa troupe, mais ça n'empêche pas les échanges. Et après, est-ce que la magie se crée ici? Pas forcément. Il y a les lieux de répète, effectivement, pour essayer sur des spectacles, c'est très pratique, mais la plupart du temps, quand on va faire des résidences, ça peut se trouver ailleurs, plutôt dans des théâtres ou des salles un peu plus grandes, quoi.
Là où il y a de la place, en fait, pour pouvoir répéter peut-être un peu plus qu'ici.
C'est ça. Et puis ici, ça, c'est partagé, donc c'est un peu plus compliqué de garder une semaine une même salle pour une seule troupe, sachant qu'on est beaucoup.
Effectivement. Antoine, tu te présentes comme intermittent du spectacle. En quoi est-ce que c'est différent de comédien? Comment tu définirais ton métier?
Oui, c'est une bonne question. En fait, je suis comédien, c'est quand même un peu la base de mon travail, mais intermittent du spectacle, parce que au final, comédien, c'est pas ma seule activité. On fait beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des artistes interprètes hein, qui ne font que ça à l'année, mais c'est pas la réalité du métier pour la plupart des intermittents du spectacle, où on est polyvalent en fait et on fait pas que être comédien, on fait pas que être musicien, il y en a la plupart qui font en tout cas ici au CIM, dans le collectif Intérieur Moquette, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs casquettes quoi, qui peuvent faire de la technique, qui peuvent faire de la comédie, qui peuvent faire de la musique, et donc ça c'est intéressant.
Et toi, c'est ton cas? T'as plusieurs casquettes?
Eh ben ouais, moi j'ai plusieurs casquettes. Donc du coup, je suis comédien, je fais pas mal de trucs. Mais je suis aussi formateur. Moi, je donne un atelier à la fac en compagnie de Thomas Bonardo, de Ramdam aussi. Et puis, je fais aussi des fois de la figuration et d'autres projets et des fois en impro. Et donc, c'est pareil, c'est pas la même comédie. Donc voilà, plein de choses différentes.
D'où le terme intermittent du spectacle.
D'où le terme intermittent du spectacle.
Alors, tu l'as dit, notamment avec la compagnie Ramdam. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la compagnie?
Ouais, tout à fait. La compagnie Ramdam, c'est une vieille compagnie maintenant. C'est une compagnie qui a 30 ans, qui a commencé par les arts du cirque. Et voilà, qui a opéré un petit turnover il y a une petite quinzaine d'années maintenant et qui est plus sur l'art de rue. Donc vraiment, les spectacles en rue. Donc on est 6-7 dans la compagnie. Ça dépend des spectacles. En fait, il y a des spectacles qui sont à 2, un autre qui est à 7. Donc voilà, ça dépend des spectacles. Mais ouais, maintenant, c'est principalement une compagnie d'art de rue.
Et toi, quel est ton rôle dans cette compagnie?
Et ben moi, principalement, je suis comédien. Voilà, on a Thomas avec qui je travaille beaucoup, qui lui est le directeur artistique de la compagnie. Donc c'est plutôt lui qui va peut-être présenter des nouveaux projets ou voilà, donner peut-être le mot m'échappe, une continuité en tout cas dans tous les projets, parce que c'est intéressant aussi dans un esprit de troupe, de compagnie, de veiller à ce qu'il y ait une continuité. Et on est tous un peu aussi, en fait, sur différents postes. On peut être à la technique sur certaines choses, à la construction des décors, enfin, il y a beaucoup de choses.
T'es intermittent du spectacle. Du coup, t'es un peu partout.
C'est ça.
Justement, c'est quoi les spectacles un petit peu que propose la compagnie?
Les grands spectacles là qu'on propose, il y a le bal de promo depuis l'année dernière, voilà, qu'on va commencer à tourner un peu plus fort. On va passer aux accroche-cœurs normalement cette année là en 2025 sur la cour d'Avier avec le CIM. Justement, on a une cour, ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, on avait proposé une cour qui était autoprogrammée, Donc voilà, c'est pas un festival dans le festival, mais c'est une bulle locale en tout cas dans le festival des Accroche-Cœurs.
Avec que le CIM, du coup, qui programme les spectacles des compagnies qui sont à l'intérieur du collectif.
Principalement, sachant que les individus qui sont dans le CIM sont pas forcément en troupe. C'est pas un collectif de troupes, c'est un collectif d'individus.
Ok.
Donc il y a certaines personnes qui ont des projets qui sont dans le CIM. Où il y a plusieurs personnes dans le projet qui sont dans le CIM, et des fois il y a qu'une personne dont un projet est dans le CIM et d'autres personnes qui vont pas être dans le collectif, mais tant qu'il y a au moins une personne
au sein du CIM,
ça passe.
Et donc ça sera en septembre aux Accroche-Cœurs.
Tout à fait.
À Davier.
Ouais, à la cour d'Avier.
Très bien, donc l'occasion de voir le bal de promo.
Ouais.
Et puis d'autres spectacles qui
tournent encore. De Ramdam, il y a Consorama qui est assez connu, qui a tourné beaucoup en Anjou, mais qui se joue encore, qui a un karaoké d'entreprise. Voilà, si vous l'avez jamais vu, faut le voir, c'est très sympathique. Ainsi que Mémoire du Temps, qui tourne encore. Mémoire du Temps, c'est une caravane ou une caravane cinéma en fait, où sont projetés des films de votre ville. Voilà, tout un spectacle. Il y a aussi La Dictée, là dont je fais pas partie moi. Et qui est un spectacle, c'est une fausse grande dictée.
Okay.
Avec Thomas, ça, c'est très drôle. Pour ceux qui aiment un peu le français et la connerie, très bon spectacle, qui joue très prochainement d'ailleurs, tout début avril, à Verrières en Anjou.
Eh ben, on ira voir ça.
Mais oui.
T'es aussi, avec deux amis, t'as fondé la compagnie Lionel Suprême.
Ouais.
Est-ce exactement. Que tu peux nous présenter, c'est quoi Lionel Suprême?
Eh ben, Lionel Suprême, ça découle d'une autre de mes envies, parce que moi, c'est vrai que je viens surtout du théâtre d'impro. J'ai fait quand même un peu mes armes niveau théâtre avec l'impro. Et donc là, je parle de Ramdam depuis tout à l'heure. C'est une compagnie art de rue. Donc, on se sert un peu de l'impro, mais on est quand même sur des spectacles très écrits. Il y a une part à l'impro, mais qui est pas la plus grande. Et donc, du coup, avec deux amis qui sont aussi improvisateurs, c'est vrai que nous, on avait une volonté aussi de faire des spectacles improvisés. Et donc, on a créé Lionel Suprême.
Et donc là, l'objectif, c'est que tous vos spectacles sont improvisés, toutes vos créations sont improvisées.
Eh bah pas que. Eh bah pas que au final. Non, on aime bien répondre à des commandes aussi.
Okay.
En fait, c'est le travail de création qui nous intéresse aussi. L'année dernière, on avait fait un gros loup-garou théâtralisé pour le musée de Beaufort, le musée Joseph Denet.
Okay.
Où le but était vraiment de réussir à découvrir le musée à travers le spectre du jeu du loup-garou. Et donc, on a théâtralisé toute une visite, mais il y avait une grande part d'impro, puisque on faisait vraiment jouer les gens quand même sur une base de jeu de loup-garou, où en fait, c'était autour de la momie, parce qu'ils ont une momie au musée qui est très impressionnante. Et donc, on avait tout recréé, mais la base du spectacle était un peu écrite, mais on était obligé d'improviser avec ce qui se passait dans le jeu, parce que pour tous ceux qui ont déjà joué au loup-garou, aucune partie se ressemble, quoi.
Oui.
C'est un peu compliqué.
Donc, c'est surtout basé sur des commandes? Lionel Suprême, et puis après vous avez des spectacles qui tournent un peu.
C'est ça, on a un spectacle en longue forme, donc une impro longue, enfin dite longue, parce qu'il y a plusieurs formes dans l'impro. Il y a les cabarets, les matchs et les longues formes qui sont des spectacles où en fait on va avoir une grosse entité de souvent une heure, mais qui va être complètement improvisée, mais avec des grands axes de travail, quoi. Donc nous, c'est vrai qu'on a un spectacle qui s'appelle Autour d'un verre, qui est notre longue forme, voilà, qu'on essaye de tourner un peu. Et puis là, on réfléchit à d'autres spectacles maintenant où voilà, toujours lié l'improvisation, puis avec un peu plus de conneries. Voilà, on sait pas encore. On a un spectacle pour enfants en tête, là.
Ok. Et Lionel Suprême,
ouais.
Le nom, il vient d'où?
Eh ben le papa de Johan s'appelle Lionel.
D'accord.
Voilà, ça vient de là, le Lionel et le Suprême, parce que ça claque, quoi. Lionel Suprême.
Okay.
Rien de plus.
On reconnaît bien là la connerie.
Oui, c'est ça.
Il y a un truc. On en parlait une fois tous les deux, c'est que tu fais du théâtre à l'hôpital.
Oui, tout à fait.
Pour former les médecins. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Ouais,
c'est quoi?
Alors ça, c'est un autre pan de mon intermittence, encore une fois. Ouais, je suis aussi, alors pas tout le temps, mais patient simulé.
Okay.
En fait, à l'hôpital d'Angers, il y a un centre de simulation. Il y en a sur plusieurs hôpitaux français, mais c'est vrai que le centre de simulation d'Angers est un des premiers. C'est là depuis 2005.
Ah oui.
Ouais, ça fait 20 ans, il me semble que c'est ça. Et en fait, ils ont besoin de comédiens pour former les médecins aux annonces. Donc souvent, en fait, les annonces un peu compliquées, ça va être des cancers, des maladies graves. Et en fait, pour pallier aux effets de la première annonce, parce que c'est toujours hyper compliqué pour un médecin d'annoncer ces maladies graves, de plus en plus dans leur cursus, ils essayent de mettre de la simulation. Et donc, c'est de la simulation haute fidélité, où nous, en tant que comédiens, on va apprendre des scénarios pour avoir une réaction face à l'annonce qu'ils vont nous donner. Et eux, en fait, vont être débriefés par la suite et vont pouvoir, en fait, s'essayer dans des conditions quasi réelles à annoncer des choses assez atroces. Mais au moins, bah, la première fois qu'ils devront annoncer une maladie à quelqu'un, ils ont, bah, voilà, déjà essayé et peut-être évité des mésaventures, des fois un peu compliquées.
Donc, tu te fais annoncer régulièrement une maladie grave
Ouais, ça arrive, ouais. ça arrive. Bon, c'est pas super souvent dans l'année, mais c'est toujours très très enrichissant parce qu'on se dit que quand même on sert vachement à quelque chose en sortant de ces journées-là, parce que c'est des journées pas simples. Même en tant que comédien, on en prend un peu plein la tête, mais pour le bien-être de tous, qu'on se dit que si un patient l'année d'après reçoit une nouvelle de ce médecin-là qu'on a pu aider un peu à former nous. Et que ça se passe un peu mieux et éviter certaines violences médicales, en fait, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi.
Et toi, tu en vois, en tout cas, des violences médicales parfois dans les échanges, dans les propos?
Nous, on est sur des médecins qui sont tout jeunes, hein. Des fois, c'est des internes qui sont en 4-5e année. Et en fait, c'est pas des violences à proprement dit, ça peut être juste des mots un peu malheureux. Mais nous, on est comédiens, donc ça va pas nous toucher plus. Un patient à qui on annonce qu'il a un cancer et il y a un mot très malheureux, lui va le vivre comme une violence médicale, quoi. Et donc si on peut éviter un petit peu ça, c'est cool.
C'est une bonne mission.
Ah, c'est une super mission. C'est très enrichissant. Ouais.
Antoine, on va marquer une pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Shaolit de Paradise.
Ok, pourquoi ce choix?
Parce que ça groove.
C'est pas très bien. Ouais. On écoute ça et on revient juste après ça.
Rencontre sur Radio G 101.5 FM.
En compagnie d'Antoine Galin, intermittent du spectacle, travaillant avec la compagnie Ramdam et la compagnie Lionel Suprême notamment. Alors Antoine, comment en es-tu arrivé à rejoindre la compagnie Ramdam ?
Eh ben, grâce à Thomas Bernardo, donc un de mes collègues dans la compagnie Ramdam. Moi, je prenais un cours, bah justement que je fais avec Thomas maintenant, l'atelier art de rue et vidéo.
D'élève à prof,
ouais, où je suis resté pendant 5 ans, moi, en tant qu'élève. Et en fait, l'atelier marchant bien, il y a un moment, on était une trentaine dans l'atelier. Et Thomas, c'était un peu compliqué pour lui de gérer 30 personnes, et donc il avait besoin de quelqu'un pour le suppléer. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré dans l'intermittence, en fait. Enfin non, j'avais donné des cours d'impro aussi, mais en tant que auto-entrepreneur au début, voilà, ne sachant pas trop comment faire pour gagner des sous avec tout ça, c'est pas simple. Et au final, ben de fil en aiguille, ouais, les projets menant, je me retrouve intermittent depuis 3 ans.
T'es un peu un accident de la vie ? Enfin, t'avais prévu d'être intermittent ? Pas du tout ?
Non, j'avais pas prévu d'être intermittent pour le coup. non, c'est vrai. En fait, je m'étais, je pense, longtemps refusé à me dire qu'on pouvait vivre d'un métier comme ça.
Ok.
Parce que moi, d'où je venais, comédien, c'était pas un métier à part entière. Ça me paraissait pas être une voie viable, en tout cas, parce que j'en ai vu des voies de garage, vu que j'ai fait de la psycho en études. Donc ouais, j'en ai vu plein des voies un peu compliquées pour travailler. Et c'est vrai que je me refusais un peu l'intermittence parce que moi, le théâtre, c'était surtout une passion et puis une pratique très très régulière, mais plutôt comme une passion. Et en fait, le fait est qu'il y a un moment, bah, tu peux en vivre. Bon, bah ok, on fait comme ça alors.
C'est parti.
Bah ouais.
Et alors, comment on devient comédien ? Comment on devient intermittent ?
Bah, je pense qu'il y a plein de voies, mais le fait est qu'il faut se bouger, il faut créer, il faut être curieux. Et puis, bah, tomber sur les bonnes personnes aussi, c'est une histoire de rencontre, hein, mais comme dans beaucoup d'endroits, c'est les bonnes rencontres qui font que bah, on te met le pied à l'étrier et ensuite... c'est à toi de croiser d'autres personnes et puis bah, peut-être de mettre le pied à l'étrier d'autres personnes. Ouais, c'est une grande histoire de rencontre,
ça. Et alors, il faut, je crois, pour devenir intermittent, 507 heures, c'est ça ?
C'est
ça. Pour être officiellement reconnu intermittent dans l'année ?
C'est ça. Et chaque année, tu dois refaire au moins 507 heures et prouver que, en fait, tu as fait ce qu'on appelle des cachets. Donc, des heures qui sont pas dans le régime général, mais dans le régime intermittent. Parce que l'intermittence, c'est pas un statut, c'est un régime qui est en fait différent du régime de chômage. Mais en fait, on est des chômeurs professionnels un petit peu. C'est juste que ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous, on bosse, on est payé par des structures, en tout cas, par voilà différentes choses, par nos spectacles, par nos ateliers, au minimum 507 heures dans l'année. Et l'année d'après, du coup, tous les jours où on ne travaille pas, on a une indemnisation. Mais ce qui nous permet aussi, en fait, de payer nos créations et tout ça, parce que si on devait compter toutes les heures qu'on faisait, on en fait bien plus que 507.
Oui. Mais officiellement, il faut en faire 507, voilà, et parce que tout n'est pas reconnu comme du travail par l'intermittence.
Oui. Quand tu vas faire un projet où on te paye un cachet de 12 heures d'écriture et un cachet de 12 heures pour jouer, et qu'en fait tu passes 2 semaines sur le projet à le préparer parce que tu trouves ça hyper cool, eh ben tes 2 semaines ne sont pas valorisées. Et heureusement, grâce à l'intermittence, c'est vrai que tu te retrouves pas à zéro, parce que si tu t'es payé que sur les heures payées, c'est un peu compliqué. Oui. Mais c'est un travail qui est pas sécure, quoi, parce que chaque année tu dois reprouver tes 507 heures. Et donc du coup, il y a beaucoup d'intermittents qui arrivent une première année et puis ensuite ça roule, mais il y a des années un peu noires, comme là on sait que dans la culture c'est un peu compliqué dans les pays de la Loire. Ouais, il y a beaucoup d'intermittents qui font un peu la tronche, quoi, qui tient un peu la langue, parce que les programmations, c'est un peu compliqué pour déjà cet été et puis les années qui vont arriver, quoi.
C'est de plus en plus compliqué de pouvoir vivre de l'intermittence, ou en tout cas de pouvoir prouver que, bah oui, on fait bien les 507 heures.
Bah, un petit peu, ouais. Et puis, en fait, ça dépend. On est très dépendant, mais comme tout le monde, des politiques, et les politiques culturelles sont ce qu'elles sont. Et là, c'est vrai qu'en Pays de la Loire, c'est un peu compliqué en ce moment.
Oui, c'est vrai. T'as jamais fait, toi, d'école de théâtre, Antoine ?
Non.
Est-ce qu'on peut s'en passer ?
Eh ben, apparemment, oui. Après, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les conservatoires, il y a les écoles de théâtre à proprement dit. Et puis, il y a plein de cours aussi, parce qu'on peut aussi se former tout au long de notre vie avec des formations qui sont beaucoup plus courtes. Il y a beaucoup de, je pense en impro par exemple, il y a beaucoup de gens du métier qui font des formations sur des points très précis de l'impro. Et là, c'est à nous de nous former aussi, d'aller chercher de la formation. Mais effectivement, je peux passer par une formation initiale de théâtre, ce que tout le monde ne fait pas, parce que c'est pareil avec les musiciens, en fait. T'en as qui sont pas passés par des conservatoires, qui sont plus ou moins autodidactes. C'est aussi, mais en tout cas, au collectif où on est, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'autodidacte, qui se sont retrouvés là parce qu'en fait ils pratiquaient énormément. Ils ont pas suivi de cours à proprement dit, mais de la curiosité, beaucoup de projets différents, et puis en fait à un moment tu te retrouves à être intermittent.
Est-ce que ça t'a manqué à tes débuts de justement pas sortir d'une école de théâtre, ou est-ce que d'être au CIM, il y avait cet engouement de non, il y a pas forcément besoin.
Je saurais pas dire. En fait, je pense que j'ai un a priori sur les écoles de théâtre, parce que je suis pas le meilleur comédien du monde, j'en suis très conscient, mais je suis pas sûr qu'on puisse apprendre beaucoup plus que ce qu'on sait déjà. En fait, faut être observateur dans la vie, faut être curieux de beaucoup de choses. Bien sûr, la pratique fait toujours que t'es meilleur, mais les écoles de théâtre, pour moi, sont pas un prérequis, à part si ce n'est le réseau, quoi. Et le fait est que le réseau, moi je le développe grâce au collectif et plein d'autres choses. Mais je suis pas sûr que les écoles de théâtre soient un prérequis. Ou peut-être pour ceux qui sont pas certains, passer par là pour se rendre compte aussi de ce que c'est. Mais quand on a une pratique déjà hyper régulière, pour moi c'est pas obligatoire, quoi.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie de le faire ?
Ben c'est cool. En fait, on est payé quand même à raconter des conneries la plupart du temps. Non, mais c'est un métier qui est hyper chouette. Moi, c'est vrai que je dis ça, mais il y a des moments, des projets où je me rends compte que je suis payé pour juste kiffer. Je me rends même pas compte que je bosse, quoi. Il y a bien sûr des moments où on bosse, où c'est pénible. Il y a plein de choses, mais c'est pas une galère de bosser, quoi. Et puis clairement, j'ai pas envie de bosser à l'usine. Ça me fait pas rêver. Moi, j'ai besoin de m'amuser aussi. Et c'est un métier où je m'amuse, et donc tout va bien.
Donc on continue.
Ouais.
Je t'ai pas demandé, mais à quel moment t'as commencé le théâtre ?
Comme la plupart des gens, je pense au collège. J'en ai fait très longtemps au collège, au lycée, avec les options au bac, tout ça. J'avais rejoint la troupe de mon prof de français. Enfin, je commençais à en faire déjà beaucoup.
Ouais.
J'ai arrêté un peu à la fac, et quand je suis arrivé à Angers, il y a une dizaine d'années, ça me manquait énormément. Et donc j'ai pris le théâtre par toutes les formes possibles via la fac d'Angers, parce que la fac d'Angers proposait beaucoup à ce moment-là. Donc il y avait du théâtre classique avec du texte, du théâtre de rue avec Thomas, et du théâtre d'impro avec les Zigots. J'ai tout fait dans la même année.
Ah oui.
Arrivé à Angers, mais je connaissais personne aussi, il fallait que je fasse des trucs. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre, et en fait ça m'est resté. En fait, depuis 10 ans, j'en fais énormément, et ça en est devenu mon métier.
Et l'impro en tant que tel, tu dis qu'avec la compagnie Lionel Suprême, tu fais de l'impro.
Ouais.
Avec la compagnie Radam, pas trop.
Il y en a toujours un peu dans les
spectacles. Toujours un petit peu. Est-ce que ça serait un objectif, un rêve de faire que de l'impro? Je sais que t'es un grand amateur d'impro.
J'aime beaucoup l'impro. Pour moi, c'est un des trucs les plus chouettes du théâtre, parce qu'on est. Enfin, j'aime la création instantanée, et puis en fait, j'aime le côté sport collectif de l'impro, parce que j'aime pas forcément les matchs en impro. C'est pas un des pans de l'impro qui m'intéresse, parce que c'est des troupes qui se rencontrent, mais il y a un côté compétition. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt le cabaret ou le longue forme, où on est avec des gens qu'on connaît et on essaye de créer de l'histoire avec eux, et il y aura toujours un peu ce moment magique de partage avec le public. C'est pour ça que ça se filme pas non plus, l'impro. On peut pas la filmer, parce que il y a quelque chose qui se fait avec le public où on crée de l'histoire, et en fait c'est super cool quand tu crées un super truc et qu'en direct les gens ils font waouh, ça vient de se faire là, et même toi t'es là waouh, ça vient de se faire là.
Et ça ne se refera plus jamais.
Ça ne se refera plus jamais.
Mais c'était cool là.
Ah mais c'était cool là. Ouais, c'est des beaux moments.
Et donc toi, c'est pas forcément quelque chose qui te ferait rêver de faire que ça ?
Ben non, parce qu'en fait j'aime la pluralité des activités que je fais maintenant dans mon métier. Après, j'aime beaucoup l'impro, mais ne faire que ça, ça m'embêterait aussi, quoi. J'aime les spectacles écrits, parce que c'est marrant aussi d'écrire pendant un moment sur un spectacle, de le travailler pendant 6 mois. Et là, en impro, alors il y a un côté où on doit les écrire, hein, bien sûr, ces spectacles, mais c'est bien aussi de se confronter à du texte. Enfin, moi j'aime la pluralité des différentes facettes de mon métier, et si je faisais que de l'impro, ça me saoulerait aussi un peu, je pense.
Justement, tu parlais de pluralité de théâtre. Avec la compagnie Ramdam, vous faites du théâtre de rue.
Ouais.
Quelle est la spécificité, c'est quoi le théâtre de rue ?
Le théâtre de rue, c'est un théâtre qui est pensé pour la rue. En fait, on prend pas une pièce de théâtre classique qu'on vient mettre dans la rue, c'est un théâtre qui est vraiment pensé pour la rue. C'est qu'il y a, comme dans l'impro, en fait, un rapport avec le public qui est différent un peu de la salle. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de pièces que tu vas avoir, on te met dans le noir dès le début, et en fait, t'es comme dans un film, il n'y aura pas d'échange entre toi et le comédien, si t'es dans le public. Alors que, comme dans l'impro, le théâtre de rue, il y a un échange, puisqu'on vient, nous, avec notre format, avec notre spectacle, dans le quotidien des gens. même si on est en festival ou tout ça, on est quand même dans l'espace urbain. Et c'est s'approprier cet espace, les gens qui le vivent, pour leur apporter une autre proposition. Et c'est ça qui est bien avec le théâtre de rue, c'est qu'il est, pour moi, beaucoup plus accessible, en fait, que le théâtre un peu classique. Enfin, les gens qui vont au quai, si vous allez au quai de temps en temps, c'est quasiment tout le temps les mêmes gens qui vont au quai. Les publics se côtoient pas, en fait. On parlait avec de ça dans le CIM, là, il y a pas longtemps, d'éducation populaire. C'est là où aussi peut intervenir le théâtre de rue, parce que lui, il vient s'ancrer, des fois au pied de bâtiment, il vient s'ancrer sur des marchés, il vient s'ancrer sur des festivals. Et donc, on a un public qui est beaucoup plus large et qu'on va essayer d'apper et lui donner un peu de culture, quoi.
D'une autre manière aussi différente que celle de, venez, on va dans un théâtre et on s'assoit et on regarde.
Exactement.
Ouais. Là, on peut être assis, mais on peut être aussi participatif.
Ah, on peut être complètement participatif. Ouais, en plus, les spectacles de Ramdam, pour le coup, c'est, il y a tout le temps des gens qui viennent participer. on a besoin de public.
J'avais vu balle de promo où ouais. Vous faites venir danser les gens avec vous.
C'est ça. Le gros truc du spectacle, c'est qu'on a un fond vert qui fait 4 mètres par 4 mètres. Et donc, on incruste les gens en direct dans les clips. Donc, que des clips ultra connus qui nous rappellent plus ou moins tous des choses. Et donc, en direct, on voit les gens qui dansent et qui sont incrustés dans les clips. Donc, comme s'ils étaient vraiment dans la vidéo, quoi.
Et ça, c'est vraiment le summum de votre art aussi, de se dire, bah voilà, ça y est, on a invité le public, il danse avec nous.
Ouais, bah c'est ça, c'est un moment partagé, quoi. Mm. On est là pour partager un moment avec le public.
Il y a pas longtemps, je discutais avec des improvisateurs, et on se rendait compte que l'improvisation, il y avait un truc un peu difficile à vendre. À des programmateurs ou à des théâtres, etc. Est-ce que tu partages le même constat?
Complètement. Ouais, l'improvisation, c'est pas ultra vendeur, malheureusement. C'est un peu moins connu aussi. Enfin, même si je pense dans les grandes villes, en fait, il y a plus ou moins maintenant partout des troupes d'impro. Mais passer toutes les villes qui font un peu plus de 100 000 habitants, il n'y a pas des troupes d'impro partout encore, même si ça a tendance de plus en plus à se généraliser. Mais quand on regarde au Québec, par exemple, où l'impro est vraiment là-bas, c'est partout, en fait.
C'est la mère patrie de l'impro.
C'est la mère patrie de l'impro, de toute façon. Mais c'est vrai qu'en fait, dans tous les bars, tu vas avoir une troupe d'impro qui va passer chaque semaine. Enfin, c'est très régulier, c'est un peu... Comme le stand-up a maintenant en France, avec le stand-up, lui a pris un envol assez fou. Et les spectacles de stand-up, ça se vend très facilement si t'es un peu connu. Enfin, remarque, oui, ça se vend facilement si t'es un peu connu. C'est de l'image de marque. Et l'impro, ouais, souffre un peu de ça parce que nous, il n'y a pas de gens connus tellement dans l'impro. Et c'est pas un spectacle qui se vend parce que faire un teaser d'impro, ça rend pas grand chose parce que c'est un moment unique qu'on partage. Et ouais, les programmations, je pense, sont un peu frileuses pour le moment.
Et est-ce que c'est la même chose avec le théâtre de rue? Ou est-ce que justement, parce qu'il y a une part d'écriture, il y a peut-être un moyen de faire plus des teasers et de mieux vendre le concept?
Ben ouais, et puis l'art de rue, le théâtre de rue, c'est reconnu depuis plus longtemps. T'as quand même les grands festivals. Enfin, tu vois, je pense à Aurillac, je pense à Chalon. Enfin, c'est connu depuis longtemps. Il y a des structures nationales, enfin tu vois, il y a des CNAR, des centres nationaux d'art de rue. C'est reconnu en fait l'art de rue comme un art à part entière, comme la musique, comme le théâtre, alors que l'impro est pas encore tout à fait là-dedans. Il n'y a pas d'engouement de la part du gouvernement sur l'impro.
Antoine, pour terminer cette rencontre, j'avais une petite question de fun qui est un peu rituelle. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut devenir comédien?
Bonne chance. mais bonne chance. Mais en fait, faut rencontrer les bonnes personnes. Faut pas hésiter à être curieux. Voilà, avoir un peu de chance aussi. J'ai envie de dire comme partout, mais ouais, il faut bosser, avoir de la chance, avoir du réseau, et puis pas se laisser décourager non plus.
C'est parti, merci pour ce conseil.
Merci.
Merci beaucoup Antoine Galin d'être venu aujourd'hui nous rencontre.
Merci à toi.
On te retrouve très bientôt sur scène avec la compagnie Ramdam et la compagnie Lionel Suprême.
Tout à fait.
Que je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux.
Oui, il faut.
Sites pour en savoir plus. On a retenu bientôt à Verrières en Anjou avec la dictée début avril.
Ouais, Ramdam, je serai pas dedans, mais faut y aller. C'est très bien.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify et à nous suivre sur Rencontre, sur Instagram à rencontre-radio-g. On se retrouve le jeudi 18 avril à 13h pour une nouvelle rencontre et demain à 19h pour ce week-end. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine, topette.
Radio G, 101.5 FM. En en DAB+, sur Angers. Radio G. 1.7 tout.